Vous écoutez On lit pour vous.
Les droits des femmes hier et aujourd'hui. Connaître notre histoire collective et aller de l'avant. Un entretien avec Rabea Nassiri paru le 24 février 2025 sur la page d'ONU Femmes. Rabea Nassiri, du Maroc, nous entretient sur sa participation à la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing en 1995 et sur la pertinence actuelle du programme d'action de Beijing. MoClic pour toutes les femmes et les filles est un nouvel appel à l'action à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Beijing. Rabea Nassiri, militante marocaine des droits humains, experte en matière de genre et de droits des femmes, nous parle de la lutte permanente en faveur de l'égalité des sexes. La Déclaration et le programme d'action de Beijing, un tournant pour les droits des femmes. Lorsque Rabea Nassiri, experte marocaine en droits humains, a assisté à la 4e conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995, elle savait que cette rencontre constituait un tournant pour les droits des femmes. « J'ai été gagnée par l'élan international qui est né à la suite de la conférence de Nairobi », a-t-elle déclaré. Une série de conférences mondiales et de réunions organisées en amont et divers mouvements féministes ont ouvert la voie à la conférence et à l'accord international qui en a découlé. La déclaration et le programme d'action de Beijing ont été approuvés par 189 pays et des milliers de représentants de la société civile. Rabea Nassiri se souvient que des activistes féministes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie se sont regroupés en un collectif pour plaider en faveur de réformes du droit de la famille dans leur pays et dans le monde. Pour elles, la conférence de Beijing a été une étape majeure dans leur quête d'égalité, de droit et de justice. Cette conférence a permis de tirer des enseignements précieux, d'élargir les alliances et de renforcer la solidarité, explique-t-elle. L'adoption du programme d'action a représenté un tournant, car elle s'est accompagnée d'un cadre d'action et d'un engagement direct des États à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux. Ces plans d'action nationaux sont porteurs de changements grâce à l'allocation de ressources pour l'exécution des politiques et des programmes. Au Maroc, le plaidoyer et les engagements pris lors de la conférence de Beijing en 1995 ont abouti à la réforme historique de son droit de la famille. Avant son entrée en vigueur, l'annonce du nouveau Code de la famille du Maroc a été faite officiellement par le gouvernement en 2004. Il contient un certain nombre de dispositions progressistes en faveur de l'égalité des sexes, telles que l'augmentation de l'âge du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes, la pénalisation de la violence domestique, l'égalité des droits de garde des enfants accordés au père et à la mère, et la fin de la tutelle exercée sur les femmes par les membres masculins de la famille. Défis pour les droits de la femme hier et aujourd'hui. Rabea Nassiri rappelle que l'un des plus grands défis auxquels les féministes étaient confrontées à l'époque de la conférence de Beijing était l'instrumentalisation de la religion pour rejeter l'égalité dans le droit de la famille et la résurgence du conservatisme au nom de la religion. Depuis 1995, de nombreux progrès ont été réalisés en matière d'égalité des sexes et de droits des femmes au Maroc et dans le monde. Elle souligne d'ailleurs que cette question est désormais au cœur des débats sociaux et politiques au Maroc. Les politiques publiques sont de plus en plus analysées à travers le prisme du genre, affirme-t-elle, ajoutant cependant que le populisme, les stéréotypes sexistes et la montée du conservatisme sont le terreau des régressions actuelles. Ce que la Déclaration et le programme d'action de Beijing peuvent nous apprendre aujourd'hui. Le programme d'action de Beijing reste plus que jamais pertinent pour les féministes et les activistes des droits humains comme Rabea Nassiri. Mais c'est l'engagement en faveur de sa mise en œuvre qui doit être renouvelé, déclare-t-elle. Interrogée sur les enseignements tirés de la conférence de Beijing en 1995 qui demeurent pertinents pour les mouvements féministes, elle a eu cette réponse. Le principal enseignement est lié à l'importance du dialogue intergénérationnel et des échanges pour renforcer l'apprentissage, la compréhension et de la solidarité féministe, et ainsi pouvoir collectivement remettre en question le patriarcat. Aujourd'hui, elle appelle les jeunes féministes à connaître notre histoire collective et aller de l'avant. C'était « Les droits des femmes hier et aujourd'hui ». Connaître notre histoire collective et aller de l'avant. Un entretien avec Rabea Nassiri paru le 24 février 2025 sur la page d'ONU Femmes.
Les 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, leur effet transformateur dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Un texte de la rédaction, paru le 25 novembre 2024, sur la page d'ONU Femmes. Il y a 30 ans, en 1995, lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes, les dirigeants de 189 pays et plus de 30 000 activistes se réunissaient pour élaborer une feuille de route visionnaire afin de parvenir à l'égalité des droits pour les femmes et les filles. Cette feuille de route, connue sous le nom de Déclaration et Programme d'action de Beijing, est devenue l'agenda mondial pour les droits des femmes, réunissant le plus large consensus. Ancrée dans le vécu et les revendications des femmes et des filles, la Déclaration de Beijing énonçait 12 domaines d'action critiques, notamment la violence à l'égard des femmes. À l'approche de leur 30e anniversaire en 2025, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing demeurent le fondement du mouvement pour les droits des femmes et l'égalité des genres, au regard desquels les gouvernements, les activistes et les Nations unies évalue les progrès accomplis, s'attaque aux problèmes et s'engage à consacrer des ressources pour mettre en œuvre l'action à mener. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, découvrez comment la Déclaration et le Programme d'action de Beijing ont transformé l'agenda de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et ce que cela implique aujourd'hui. Les droits des femmes sont des droits humains, un tournant en faveur de l'égalité des genres. C'est lors de la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits humains, qui s'est tenue à Vienne en 1993, que les droits des femmes ont pour la première fois été explicitement reconnus en tant que droits humains. Les droits humains sont les droits des femmes et les droits des femmes sont des droits humains, devint le cri de ralliement des féministes lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing. Cette formule provenait d'un discours prononcé par Hillary Rodham Clinton, la première dame des États-Unis d'Amérique de l'époque. Le programme d'action de Beijing confirmait le droit des femmes à vivre sans violence. Cette conférence a servi de point de départ aux féministes pour s'organiser et plaider en faveur de la ratification d'un autre accord international majeur, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, et son protocole facultatif, mesure parachevée en 1999, autorisant les individus à signaler directement les violations au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. L'adoption de cette convention a exercé des pressions politiques sur les gouvernements pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Que les droits des femmes soient des droits humains ne fait pas débat aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'une femme sur trois subit des violences au cours de sa vie et que toutes les 10 minutes, une femme est tuée délibérément par son compagnon ou un membre de sa famille. Force est de constater qu'aucun pays n'a tenu la promesse d'une vie sans violence à l'égard des femmes. Loi de protection contre la violence domestique, une montée en puissance dans la foulée de Beijing. En 1994, une douzaine de pays imposaient des sanctions légales contre la violence domestique. Après la déclaration et le programme d'action de Beijing, leur nombre a rapidement augmenté. Aujourd'hui, la base de données mondiale des Nations Unies relative à la violence à l'égard des femmes recense 1583 mesures législatives dans 193 pays, dont 354 ciblent spécifiquement la violence domestique. Des études montrent que l'adoption d'accords internationaux et régionaux sur les droits humains et la mobilisation sociale féministe ont incité à adopter des lois et des politiques progressistes. Aujourd'hui, il existe quantité de preuves que les lois sur la violence domestique font reculer la violence entre partenaires intimes. Les pays dotés de telles lois font état d'un taux de prévalence de 9,5% par rapport à un taux de 16,1% dans ceux dépourvus de législation sur la violence domestique. Pour autant, l'application de ces lois demeure imparfaite et on constate des insuffisances en termes de services complets de protection juridique et de soutien aux survivantes. Faire évoluer les normes sociales et élargir les services essentiels destinés aux survivantes. La déclaration de Beijing a été révolutionnaire dans son approche holistique de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Elle a appelé à élargir l'accès aux services essentiels, notamment en matière de refuge, d'aide judiciaire, de soins médicaux et de soutien psychologique. Avant 1995, il n'existait que 19 mécanismes institutionnels de lutte contre la violence familiale. Plus de 95% de ces dispositifs ont été mis en place après le programme d'action de Beijing. La déclaration et le programme d'action de Beijing ont également mis l'accent sur la prévention, en exhortant les gouvernements et les acteurs du développement international à investir dans des campagnes d'éducation et de sensibilisation qui remettent en question les normes sociales et les stéréotypes contribuant à la persistance de la violence à l'égard des femmes. Vous écoutez les 30 ans de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, leur effet transformateur dans la lutte contre la violence basée sur le genre, un texte de la rédaction paru le 25 novembre 2024 sur la page d'ONU Femmes. L'importance des données sur la violence à l'égard des femmes. Ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Sans données de qualité sur la violence à l'égard des femmes et des filles, il est impossible que les lois et les politiques prennent suffisamment en compte la réalité du quotidien des femmes. Avant 1995, la plupart des données sur la violence à l'égard des femmes provenaient d'études limitées et ponctuelles. La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 avait appelé les gouvernements à collecter des données sur la violence à l'égard des femmes, en particulier la violence familiale. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing appelaient eux aussi à la collecte systématique de données, ce qui a ouvert la voie à des enquêtes nationales et à des études internationales comme l'étude multipays de l'OMS sur la violence domestique. Entre 1995 et 2014, 102 pays ont réalisé des enquêtes nationales sur la violence à l'égard des femmes. Il existe aujourd'hui des initiatives mondiales comme le programme Women Count d'ONU Femmes et la base de données mondiale sur la violence à l'égard des femmes qui suivent les progrès réalisés et font ressortir les domaines nécessitant une action urgente. Depuis sa création en 2016, le programme Women Count aide les pays à collecter davantage de données sur la violence à l'égard des femmes, et il a également été fer de lance de la création d'un cadre pour mesurer la violence facilitée par les technologies. Le pouvoir des mouvements féministes et des organisations de femmes. Le programme d'action de Beijing a reconnu la capacité des mouvements féministes et de la société civile à influer sur l'élaboration des politiques et à soutenir les survivantes. Comme les études le confirment, la présence d'un mouvement féministe fort et autonome est déterminante pour œuvrer en faveur de l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles. Pourtant, en 2022, les pays ont consacré moins d'1% de l'aide au développement pour lutter contre la violence basée sur le genre, et seule une fraction de cette aide a été versée à des organisations de femmes. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, géré par ONU Femmes au nom du système des Nations unies, est le seul mécanisme mondial d'octroi de subventions dédié à des initiatives ayant vocation à mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. En 1996, la résolution 50/166 de l'Assemblée générale des Nations unies appelait à la création du Fonds d'affectation spéciale des Nations unies, conformément aux mesures énoncées dans la Déclaration et le Programme d'action de Beijing. À ce jour, ce fonds a alloué 225 millions de dollars à 670 initiatives dans 140 pays et territoires. De plus, la coalition d'action sur la violence fondée sur le genre de Génération Égalité se donne pour but de porter à 500 millions de dollars les financements nationaux versés à des organisations de défense des droits des femmes et dirigée par des filles d'ici 2026. Ces efforts ont donné jour à des engagements qui changent la donne, comme le nouveau programme ACT pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes d'ONU Femmes, porté par un investissement de 22 millions d'euros de la part de l'UE pour le renforcement des mouvements de défense des droits des femmes et leur plaidoyer. La promotion des droits des filles, à l'époque et de nos jours. La déclaration et le programme d'action de Beijing constituaient le premier document d'orientation mondiale sur les femmes à mettre spécifiquement l'accent sur les droits des filles et la lutte contre la violence à l'égard des filles. Ils appelaient les gouvernements à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant, à assurer l'enregistrement des naissances et l'identité nationale des filles, et à promouvoir l'accès des filles à des programmes d'études en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEAM. Ils ont aussi énoncé des mesures destinées à protéger les filles contre la violence basée sur le genre, notamment des pratiques telles que le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines et les grossesses chez les adolescentes, autant de problèmes qui restreignent encore aujourd'hui les droits à la santé et le bien-être des filles. Malgré les progrès réalisés, de nouveaux défis tels que le changement climatique et le cyberharcèlement exacerbent la violence à l'égard des femmes, comme le montre le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU. Alors que 9 millions de filles sont exposées au risque d'être mariées avant l'âge adulte d'ici 2030, et sachant qu'à l'âge de 19 ans, une adolescente sur 4 a déjà été victime de violences de la part d'un partenaire, le programme d'action de Beijing reste un modèle essentiel pour protéger les droits des filles et faire en sorte qu'elles aient voix au chapitre. C'était les 30 ans de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, leur effet transformateur dans la lutte contre la violence basée sur le genre, un texte de la rédaction, paru le 25 novembre 2024, sur la page d'ONU Femmes.
Cinq erreurs cachées de la planification financière. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 16 février 2025 dans la presse. Vous gérez vous-même vos placements? Ou vous songez à le faire? Les outils n'ont jamais été aussi nombreux, accessibles et peu coûteux. Bref, c'est le rêve. Ou presque. C'est que les investisseurs ne pensent pas à tout. Alexandre Leblon le constate chaque jour. Plusieurs personnes ont de très bonnes connaissances sur le plan des placements, dit-il, mais elles ont souvent des angles morts dans le reste de leur planification financière. Planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Leblon Planification Financière à Québec, Alexandre Leblon travaille en partie pour une clientèle habituelle et en partie à honoraires avec des investisseurs autonomes. Quand les gens arrivent dans son bureau, ils remarquent que les lacunes sont souvent les mêmes. Voici cinq erreurs cachées de la planification financière. 1. Sans testament, les conjointes faits n'ont droit à rien. Pour bien des gens, faire un testament est coincé dans l'éternel pile-flou des projets. Pourtant, sans testament, les conjoints de fait n'ont droit à rien en cas de décès d'un conjoint. Le réflexe est de croire que notre chum ou notre blonde va hériter, mais non. Un conjoint de fait, ça n'existe pas aux yeux du Code civil, note Monsieur Leblon. En cas de décès, biens et placements iront à un parent, un frère, une sœur, un neveu, peu importe l'état de la relation. La loi regarde qui est vivant. La loi ne regarde pas qui est en bon terme avec vous. 2. Séparation, les conjointes faits sans protection. Lorsque des personnes mariées se séparent, une bonne partie des actifs acquis durant le mariage, résidence principale, meubles, véhicules qui servent aux besoins de la famille, régime de retraite, etc., sont divisés 50-50. Les conjointes faits n'ont pas cette protection. Parfois, le conjoint qui a mis sa carrière sur pause pour élever les enfants se sépare et n'a pas de REER, n'a pas de régime de retraite, de CELI, etc. Un va avoir accumulé plus que l'autre. Sans entente signée. Un couple n'est pas une équipe, dit-il. Julie n'existe pas pour Martin et Martin n'existe pas pour Julie. Pour y remédier, les conjoints de fait peuvent rédiger un contrat de vie commune avec un notaire et établir les droits et obligations en cas de séparation et de décès. Si un couple se met là-dessus, dit M. Leblon, ça va être le moment le plus plate de la semaine, mais ça donne une protection juridique si un des deux conjoints décide d'être perturbateur en cas de séparation. À partir de juin 2025, l'union parentale sera reconnue au Québec et donnera une protection à certains conjoints de fait. Ça va toucher les gens qui auront un enfant après cette date, dit M. Leblon. C'est un pas dans la bonne direction, mais cela n'inclut pas le partage des régimes de retraite. 3. Marié sans bilan prénuptial. Inversement, les gens qui se marient doivent faire un bilan prénuptial. L'idée est de faire le point sur la valeur des actifs de chacun. En cas de séparation, ce bilan servira de point de départ à partir duquel calculer la prise de valeur de ces actifs tout au long de la durée du mariage, y compris les régimes de retraite. Ce que vous avez acquis avant l'union vous appartient, mais s'il n'y a pas de chiffre, c'est difficile à calculer. Ça prend des preuves de ça quelque part. 4. Placements qui génèrent du revenu d'intérêt dans des comptes non enregistrés. Même si les experts nous disent que rechercher des dividendes n'ajoute pas de plus-value à nos placements, cette approche est extrêmement populaire chez certains investisseurs. Alexandre Leblon voit passer dans son bureau plusieurs investisseurs dont les placements génèrent du revenu de dividendes et d'intérêts dans des comptes non enregistrés. C'est désavantageux sur le plan fiscal. Dans un compte non enregistré, c'est plus avantageux de générer du gain en capital car 50% de ce gain échappe à l'impôt. Il est généralement préférable de recevoir des intérêts et dividendes dans un compte enregistré, comme un REER ou un CELI. Pour les comptes non enregistrés, on peut privilégier des fonds qui versent peu de dividendes, comme ceux qui répliquent les grands indices boursiers, exemple S&P versus TSX à Toronto ou S&P 500 à New York, car leur rendement provient surtout de l'appréciation du capital. Les obligations à courte échéance, qui paient des intérêts plus modestes, peuvent aussi être intéressantes dans des comptes non enregistrés. 5. Ne pas être assuré ou mal assuré. De nombreux travailleurs présument qu'ils pourront générer un revenu tout au long de leur vie active. Mais si ce n'est plus le cas, le château de cartes s'effondre, note M. Leblon. Beaucoup de gens ont une assurance vie. Or, pour un adulte en bonne santé, les risques d'invalidité sont 4 ou 5 fois plus importants que les risques de décès avant la retraite. Le planificateur financier recommande d'avoir une assurance invalidité de base. Mais aucune obligation d'aller au maximum et que ça coûte 250 $ par mois. Aussi, une assurance vie temporaire va coûter une fraction du prix d'une assurance vie permanente. Le dollar qui part en assurance est un dollar qui n'est pas investi, donc il y a un équilibre à trouver. Tout ça peut être intimidant, concède-t-il. Si c'est une trop grosse bouchée, ça ne fonctionnera pas. L'idée est de s'attaquer à un élément à la fois. C'était 5 erreurs cachées de la planification financière, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 16 février 2025 dans La Presse.